Avec quelle anxiété interrogeait-il les ténèbres? Cet ennemi de Dobrek, qui se trouvait également son adversaire à lui, il était sur le point de le démasquer. Il se mettait en travers de ses projets. Et le butin dérobé à Dobrek, il le reprenait à son tour, tandis que Dobrek dormait, et que les complices, tapis derrière la porte du vestibule ou derrière la grille du jardin, attendaient vainement le retour de leur chef. Et ce retour se produisit. Lupin en fut informé à nouveau par l'ébranlement de la rampe. Et de nouveau, les nerfs tendus, les sens exaspérés, il tâcha de discerner l'être mystérieux qui venait vers lui. Il l'avisa soudain, à quelques mètres de distance. Lui-même, caché dans un renfoncement plus ténébreux, ne pouvait être découvert. Et ce qu'il voyait, de quelle façon confuse, avançait de marche en marche, avec des précautions infinies, et en s'accrochant aux barreaux de la rampe. « À qui diantre ai-je affaire ?» se dit Lupin, dont le cœur battait. Le dénouement se précipita. Un geste imprudent de sa part avait été surpris par l'inconnu, qui s'arrêta net. Lupin eut peur d'un recul, d'une fuite. Il sauta sur l'adversaire et fut stupéfait de ne rencontrer que le vide et de se heurter à la rampe sans avoir saisi la forme noire qu'il voyait. Mais aussitôt il s'élança, traversa la moitié du vestibule et rattrapa l'adversaire au moment où celui-ci arrivait à la porte du jardin. Il y eut un cri de terreur auquel d'autres cris répondirent de l'autre côté de la porte. « Ah, crébleu, qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Lupin, dont les bras invincibles s'étaient refermés sur une toute petite chose tremblante et gémissante. Comprenant soudain, il fut effaré et resta un moment immobile, indécis sur ce qu'il allait faire avec la proie conquise. Mais les autres s'agitaient derrière la porte et s'exclamaient. Alors, craignant le réveil de Dobrek, il glissa la petite chose sous son veston, contre sa poitrine, empêcha les cris avec son mouchoir roulé en tampon et remonta hâtivement les trois étages. « Tiens » dit-il à Victoire qui se réveilla en sursaut. « Je t'amène le chef indomptable de nos ennemis, l'Hercule de la bande. As-tu un biberon ?» Il déposa sur le fauteuil un enfant de 6 à 7 ans, menu dans son jersey gris, coiffé d'une calotte de laine tricotée et dont l'adorable visage, tout pâle, aux yeux épouvantés, était tout sillonné de larmes.
« Où as-tu ramassé ça ?»
fit Victoire, ahuri. « Au bas de l'escalier et sortant de la chambre de Dobrek, » répondit Lupin, qui tâtait vainement le jersey dans l'espoir que l'enfant aurait apporté de cette chambre un butin quelconque. Victoire s'apitoya.
« Le pauvre petit ange !» « Regarde, il se retient de crier. Oh, Jésus-Marie, il a des mains, c'est des glaçons. N'aie pas peur, fiston, on ne te fera pas de mal. Le monsieur n'est pas méchant. »
« Non, non, pas méchant pour dessous, le monsieur. Mais il y a un autre monsieur très méchant qui va se réveiller si tu continues à faire du boucan comme cela à la porte du vestibule. Et tu les entends, Victoire ?»«
Qui est-ce ?»
Les satellites de notre jeune Hercule, la bande du chef indomptable.
Alors,
comme je ne veux pas être pris au piège, je commence par ficher le camp.
Tu viens, Hercule ?
Il roula l'enfant dans une couverture de laine, de manière à ce que la tête dépassât, le bâillonna aussi soigneusement que possible et le fit attacher par Victoire sur ses épaules.
Tu vois, Hercule ? On rigole !
T'en trouveras des messieurs qui jouent au bon vinaigre à 3 heures du matin ?
Allons, oust ! Prenons notre vol !
T'as pas le vertige ? Il enjamba le rebord de la fenêtre et mit le pied sur un des barreaux de l'échelle. En une minute, il arrivait au jardin. Il n'avait pas cessé d'entendre et il entendait plus nettement encore les coups que l'on frappait à la porte du vestibule. Il était stupéfiant que Dobrek ne fût pas réveillé par un tumulte aussi violent.
« Si je n'y mets bon ordre, ils vont tout gâter. »
S'arrêtant à l'angle de l'hôtel, invisible dans la nuit, il mesura la distance qui le séparait de la grille. Cette grille était ouverte. À sa droite, il voyait le perron, au haut duquel les gens s'agitaient. À sa gauche, le pavillon de la concierge. Cette femme avait quitté sa loge et, debout près du perron, suppliait les gens.
« Mais taisez-vous donc ! Taisez-vous donc, il va venir !»«
Ah, parfait ! La bonne femme est aussi la complice de cela. Bigre, elle cumule !» Il s'élança vers elle et, l'empoignant par le cou, lui jeta « Va les avertir que j'ai l'enfant, qu'ils viennent le reprendre chez moi, rue Chateaubriand. » Un peu plus loin, sur l'avenue, il y avait un taxi que Lupin supposa retenu par la bande. D'autorité, et comme s'il eût été un des complices, il monta dans la voiture et se fit conduire chez lui.
« Eh bien, on n'a pas été trop secoués ? Si on se reposait un peu sur le dodo du monsieur ?»
Son domestique Achille dormait. Lui-même installa le petit et le caressa gentiment. L'enfant semblait engourdi. Sa pauvre figure était comme pétrifiée dans une expression rigide où il y avait à la fois de la peur et de la volonté de ne pas avoir peur, l'envie de pousser des cris et un effort pitoyable pour n'en point pousser.
« Pleure, mon mignon, ça te fera du bien de pleurer. »
L'enfant ne pleura pas, mais la voix était si douce et si bienveillante qu'il se détendit, et dans ses yeux plus calmes, dans sa bouche moins convulsée, Lupin, qu'il examinait profondément, retrouva quelque chose qu'il connaissait déjà. Une ressemblance indubitable. Cela encore lui fut une confirmation de certains faits qu'il soupçonnait et qui s'enchaînaient les uns aux autres dans son esprit. En vérité, s'il ne se trompait pas, la situation changeait singulièrement, et il n'était pas loin de prendre la direction des événements. Dès lors... Tiens, c'est ta maman qui vient te chercher. Ne bouge pas.
Mon fils, où est-il ?
Dans ma chambre. Sans en demander davantage, montrant ainsi que le chemin lui était connu, elle se précipita dans la chambre.
La jeune femme aux cheveux gris, l'ami et l'ennemi de Dobrec. C'est bien ce que je pensais.
Il s'approcha de la fenêtre et souleva le rideau. Deux hommes arpentaient le trottoir en face, Grognard et le Balu.
Et ils ne se cachent même pas. C'est bon signe. Ils considèrent qu'il faut obéir au patron. Reste la jolie dame aux cheveux gris. Ce sera plus difficile. À nous deux, la maman.
Il trouva la mère et le fils enlacés. Et la mère, toute inquiète, les yeux mouillés de larmes, qui disait
« Tu n'as pas de mal, tu es sûr. Oh, comme tu as dû avoir peur, mon petit Jacques. »
Un rude petit bonhomme.
Elle ne répondit pas. Elle palpait le jersey de l'enfant comme Lupin l'avait fait, sans doute pour voir s'il avait réussi dans sa mission nocturne. Et elle l'interrogea tout bas.
« Non, maman, je t'assure que non. »
Elle l'embrassa doucement et le câlina contre elle, si bien que l'enfant, exténué de fatigue et d'émotion, ne tarda pas à s'endormir. Elle demeura longtemps encore penchée sur lui. Elle-même semblait très lasse et désireuse de repos. Lupin ne troubla pas sa méditation. Il la regardait anxieusement, avec une attention dont elle ne pouvait pas s'apercevoir, et il nota le cerne plus large de ses paupières et la marque plus précise de ses rides. Pourtant, il la trouva plus belle qu'il ne la croyait, de cette beauté émouvante que donne l'habitude de souffrir à certaines figures plus humaines, plus sensibles que d'autres. Elle eut une expression si triste que, dans un élan de sympathie instinctive, il s'approcha d'elle et lui dit « J'ignore quels sont vos projets, mais quels qu'ils soient, vous avez besoin de secours. Seul, vous ne pouvez pas réussir. »
« Je ne suis pas seul. »
« Ces deux hommes qui sont là, je les connais. Ils ne comptent pas. Je vous en supplie, usez de moi.
Vous vous rappelez l'autre soir, au théâtre, dans la baignoire. Vous étiez sur le point de parler. Aujourd'hui, n'hésitez pas. » Elle tourna les yeux vers lui, l'observa, et comme si elle n'eût pu se soustraire à cette volonté adverse, elle articula
« Que savez-vous, au juste ? Que savez-vous de moi ?»«
J'ignore bien des choses. J'ignore votre nom. Mais je sais... » Elle l'interrompit d'un geste, et avec une décision brusque, dominant à son tour celui qui l'obligeait à parler.
« Inutile ! Ce que vous pouvez savoir, après tout, est peu de choses et n'a aucune importance. Mais quels sont vos projets, à vous ? Vous m'offrez votre concours en vue de quoi ? Si vous vous êtes jeté à corps perdu dans cette affaire, si je n'ai rien pu entreprendre sans vous rencontrer sur mon chemin, c'est que vous voulez atteindre un but. Lequel ?
Lequel ? Mon Dieu ! Il me semble que ma conduite...
Non, pas de mots. Il faut entre nous des certitudes, et pour y arriver, une franchise absolue. Je vais vous donner l'exemple. Monsieur Daubrecq possède un objet d'une valeur inouïe, non par lui-même, mais par ce qu'il représente. Cet objet, vous le connaissez. Deux fois, vous l'avez eu en main. Deux fois, je vous l'ai repris. Eh bien, je suis en droit de croire que si vous avez voulu vous l'approprier, c'est pour user du pouvoir que vous lui attribuez et pour en user à votre bénéfice.
Comment cela ?
Oui, pour en user selon vos desseins et dans l'intérêt de vos affaires personnelles, conformément à vos habitudes de...
De cambrioleur et d'escroc. Elle ne protesta pas. Il tâcha de lire au fond de ses yeux sa pensée secrète. Que voulait-elle de lui ? Que craignait-elle ? Si elle se méfiait, ne pouvait-il, lui aussi, se méfier de cette femme qui, deux fois, lui avait repris le bouchon de cristal pour le rendre à Daubrecq ? Si mortellement ennemie qu'elle fût de Daubrecq, jusqu'à quel point demeurait-elle soumise à la volonté de cet homme ? En se livrant à elle, ne risquait-on pas de se livrer à Daubrecq ? Cependant, il n'avait jamais contemplé des yeux plus graves et un visage plus sincère. Sans plus hésiter, il déclara « Mon but est simple. La délivrance de Gilbert et Vaucheray. »
« Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? »
cria-t-elle toute frémissante et en l'interrogeant d'un regard anxieux. « Si vous me connaissiez... »«
Je vous connais... » « Je sais qui vous êtes. Voilà des mois que je suis mêlé à votre vie sans que vous le soupçonniez. Et cependant, pour certaines raisons, je doute encore. »«
Vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous sauriez qu'il ne peut y avoir de répit pour moi avant que mes deux compagnons, ou tout au moins Gilbert, car Vaucheray est une canaille, avant que Gilbert ait échappé au sort affreux qui l'attend. » Elle se précipita sur lui et le saisit aux épaules avec un véritable affolement.
« Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Le sort affreux ? Alors vous croyez ? Vous croyez ? » ?»«
Je crois réellement, » dit Lupin, qui sentait combien cette menace l'a bouleversé. « Je crois réellement que si je n'arrive pas à temps, Gilbert est perdu. »«
Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous, je vous défends de dire cela. Il n'y a aucune raison. C'est vous qui supposez. »
Ce n'est pas seulement moi. C'est aussi Gilbert.
Hein ? Gilbert ? Comment le savez-vous ?
Par lui-même.
Par lui ?
Oui, par lui. Il n'espère plus qu'en moi. Par lui qui sait qu'un seul homme au monde peut le sauver et qui m'a appelé désespérément il y a quelques jours au fond de sa prison. Voici sa lettre.
Au secours, patron, je suis perdu, j'ai peur. Au secours.
Elle lâcha le papier. Ses mains s'agitèrent dans le vide. On eût dit que ses yeux hagards voyaient la sinistre vision qui tant de fois déjà avait épouvanté Lupin. Elle poussa un cri d'horreur, tenta de se lever et tomba, évanouie.